Midi, une minute, ce qui reste de Denis Gravel est en face de moi en studio.
Hey,
salut!
Ça va?
T'as-tu repris le dessus?
Non.
Non?
Non. J'ai pas d'énergie.
T'as-tu pris tes petites vitamines pierre à feu comme on faisait quand on était jeune?
J'essaye de me booster autant comme autant. Là, ouais. Médicaments,
café,
cocaïne. Il n'y a
rien
qui fait.
Ça, pour la grippe, c'est conseillé.
Ouais.
Ah, okay.
Ah non, sérieusement, je suis un peu découragé.
Ça je me disais,
la fin de semaine va faire en sorte que je vais reprendre mes énergies et on va passer à autre chose. Mais la vie étant ce qu'elle est. Voilà.
C'est vrai. Puis là, tes gars, ils sont pas comme les miens. Là, les miens, aujourd'hui, ils célébraient leur pas d'école. Toi, tes gars, ont été à l'école aujourd'hui?
Ben oui, il y avait de l'école. Aujourd'hui, beaucoup d'écoles sur la Rive-Nord qui ont pris la décision de rester ouvertes. Puis c'est drôle, on avait la conversation dans le corridor avec la gang de week-end. Puis les gens qui vont à l'école à pied avec leurs enfants disaient que c'était pas mal moins trippant aujourd'hui que jeudi, mettons, en frais de condition. Parce que quand tu marches à pied puis que la neige s'est pas accumulée encore,
ouais.
T'as pas nécessairement de problème.
Uh-huh.
Par contre, sur le réseau routier, c'est quand la neige est en train de tomber que c'est problématique, puis on a l'impression que la plupart des écoles prennent leurs décisions par rapport au réseau routier, transport scolaire et ainsi de suite. Ce que j'avais expliqué à mes enfants la veille, ce qui les a pas empêchés de bougonner tout le long de la ronde de char ce matin.
Mais là, les autres, as-tu un service de garde? Aussi? Ils ont-ils un service de garde aussi? Mettons qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas eu d'école. Ils ont-ils un service de garde à l'école?
Non.
Non?
Non. Le service de garde, dans ce temps-là, c'est pas mal ma blonde, ouais.
Nous autres, on a ça en Beauce.
Quand
pour l'école
vrai,
est fermée, un petit service de garde qui est organisé.
OK.
Puis il y a des enfants qui se ramassent.
Organisé à l'école ou
ouais,
organisé
ouais.
Dans des parents avec une chaîne d'appel?
Non, c'est organisé à l'école avec okay. Les Beaucerons. Les Beaucerons sont très, très,
bien
très
ça,
actifs. Là. Mais les miens, aujourd'hui, ils célébraient. Là. Je les ai appelés le matin, ils étaient heureux. Pas
sûr.
D'école, papa. On n'a pas eu jeudi. Vendredi, il y avait une sortie aux Galeries de la Patinoire,
okay.
Comme disait l'autre. Puis aujourd'hui, ben, ils n'en ont pas non plus. Fait qu'ils sont très, très, très heureux. Puis mon plus jeune a remporté les grands honneurs en fin de semaine.
Oh.
Dans un tournoi à Bellechasse.
Yes, sir.
Toute leur équipe a travaillé fort. On s'est rendu jusqu'en finale. C'était de toute beauté.
Solide.
Ouais. Qu'est-ce que le coach y a dit? Il était bon.
Ben oui. Tous les petits gars, ils étaient bons. Puis mon petit Zach était bien fier de sa première médaille d'or. Parce que
c'est
une médaille d'or.
Congrats. Ouais.
Il était full fier. Il a appelé sa mère et dit hey, maman, on est une belle équipe.
On est une belle équipe.
Ouais, c'est pas Bennington qui gaulait, eux autres.
Ouais, tournoi des quatre nations. Sérieusement, il va falloir parler à notre ami Réjean. Réjean qui sévit sur les ondes de Boulevard 102.1 le matin dans son émission Réjean le matin. Qui, ben c'est ça son prénom.
Il sévit.
Il fait tout le temps exprès Réjean sévit.
Appelons-le par son prénom. Réjean qui était pas du tout excité par la confrontation des quatre nations.
Ouais, je pense qu'il servirait de bord, hein.
À matin, il a fait son mea culpa.
Ouais.
Donc, quand quelqu'un s'excuse, on doit l'excuser puis lui dire de ne plus jamais recommencer. Moi, là, c'était le match d'une vie, là.
Samedi soir,
Canada-États-Unis.
C'était complètement débile.
Dans le contexte où, là, les États-Unis veulent nous acheter.
Ben oui.
Ils veulent nous prendre.
C'est notre mini-guerre froide à nous autres. T'sais, on pourra jamais comparer ça à la Russie versus le Canada au début des années 70. On n'est plus dans le même univers, on n'est plus dans le même monde.
Que je vous vois comparer ça.
Mais il y a quand même des parallèles à faire dans le sens où, puis on se le cachera pas, quand il y a un enrobage politique autour d'un événement sportif,
ouais.
Ça le transforme radicalement.
J'ai exactement. Même aimé ça. Je l'avoue, là. J'étais avec mes amis de filles. C'était une Galentine samedi. Fait qu'on était dans un bar puis on prenait des petits martinis. Puis là, un moment donné, ils coupent la musique pour nous mettre de game de hockey.
Exact.
Au bar. Oui.
J'espère que t'as pas manqué les trois premières bagarres.
Et là, moi, j'étais découragé à la première. Après bing, ça, bang, deux boing. Autres de plus. Puis après ça, t'embarques dedans.
Est-ce
parce
que tu t'es levé pour regarder ce qui se passait?
Qu'est-ce que tu veux dire?
Quand t'as vu là, que ça partait en foire, là,
en couille?
Ça. Ouais.
Ben, je me suis pas levée pour puncher le gars à côté parce que je trouvais que c'est un bon exemple. Mais ça a attiré mon attention. Puis j'ai regardé la game au complet en deux tonnes de Grease. Là.
Parce qu'il y a des gens qui se sont outrés qu'il y a eu de la bagarre. Il y a des gens qui se sont outrés
mais c'était
que
rapide,
l'hymne national américain avait été hué au Centre Bell.
Sans aucune subtilité d'ailleurs.
Il faut comprendre le contexte. Là. Le premier contexte étant on a mis les hymnes nationaux dans les games de hockey en raison de la Deuxième Guerre mondiale pour souligner à quel point Américains et Canadiens, des gens qui avaient payé payer de leur vie puis de leur santé mentale là, en allant à la guerre, puis c'était pour leur rendre un certain hommage. Je trouve ça intéressant, mais en même temps, ceux qui huaient pensaient pas à huer les soldats.
Non. Sauf que c'est correct d'en parler. Ouais. Vois-tu, moi, j'étais avec mon amie Marie qui est fiancée avec un gars de Nashville en fin de semaine, puis le lendemain matin, j'entends être au téléphone, puis elle parle avec son fiancé Josh, puis les deux s'obstinent sur le oui ou le non de ça.
Puis de l'autre côté, ben, y a des gens qui huaient parce qu'ils ont l'impression que le Canada veut s'approprier, les États-Unis veulent s'approprier le Canada. Mm-hmm. Puis il y a l'autre gang qui prenait juste pour le Canada puis qui voulait rien savoir de l'équipe américaine puis qui voulait montrer, intimider l'équipe américaine qu'ils n'étaient pas chez eux.
Ça a pas marché.
Non?
Ça a peut-être même eu l'effet inverse. Si on veut vraiment réfléchir là-dessus, moi je me disais, puis j'en parlais avec mes gars le lendemain matin, tu sais, je sais pas, hein. Il dit, moi je suis à la glace. Puis j'entends 20 000 personnes huer mon hymne national, là. Ça se peut que j'en mette un petit peu plus dans le game.
Ouais.
Si j'étais pas dans le game avant, là j'ai le feu. Là, j'ai le feu jusqu'à la fin de la game, c'est sûr. Voyons donc.
Là, ils sont à Boston, là tu vas capoter de la journée.
J'ai hâte de voir comment, justement, à Boston, ils vont réagir. Parce qu'il y a déjà eu hein, cette espèce de rivalité-là entre Montréal et Boston.
Ouais.
Puis à Montréal, on avait hué l'hymne national américain. Et du côté des Bruins, puis je vais essayer de te retrouver l'année parce que j'ai vu passer ça en fin de semaine. Les Bruins ont fait l'inverse, eux autres. La foule s'est levée pour applaudir à tout rompre l'hymne national du Canada. Ça a été leur façon de répondre. Pas sûr que ça va se refaire, par exemple, dans les prochains jours.
Puis je lisais là, l'histoire des bagarres. Actuellement, les bagarres sont permises dans la Ligue nationale de hockey. Tant aussi longtemps qu'ils seront permises, ben on va pouvoir avoir droit à ce genre de spectacle-là. Il y a des gens qui étaient outrés. Je prends un des journalistes que j'aime bien à Radio-Canada, Marc Durand, qui trouvait que c'était un peu bouffon là, de la façon dont le match partait. Mais de l'autre côté, pour ceux qui étaient à l'intérieur du centre Bell puis qui ont vu le match, les Ketchuk, là, ils voulaient semer la discorde, ils voulaient faire le bordel dans la place, ils voulaient faire mal paraître le Canada, ils voulaient être des intimidateurs. Puis de l'autre côté, le Canada voulait pas se faire intimider, donc ils ont répondu par les points, comme les Ketchuk voulaient intimider par les points.
Est-ce que je préfère des combats en fin de match où on se dit à la prochaine, rempli de la rancœur de la game? Absolument. J'aime mieux ça que des matchs qui débute avec une bagarre. J'étais de même avec la Ligue de hockey nord-américaine, je suis de même avec la Ligue nationale de hockey. Le côté, c'est bizarre d'un gars qui écoute la lutte, tu vas me dire, mais le côté arrangé m'énerve. Tu sais, trois bagarres, une en arrière de l'autre en partant, il y a un petit côté chorégraphié qui, moi, m'agace un peu. Si on avait vu les trois mêmes bagarres, une en arrière de l'autre en troisième période, là, j'aurais peut-être un peu mieux compris que c'est sous le coup de l'émotion. Mais tu sais, les Ketchuk le disaient eux-mêmes, là, qu'il y avait une petite discussion de groupe dans l'après-midi puis qu'ils étaient en train de planifier tout ça.
Ah oui. Mais comment tu veux arrêter les bagarres dans la Ligue nationale de hockey quand à chaque fois qu'il y a une bagarre, tout le monde se lève et tout le monde crie?
Hey, moi, il fallait que je me la joue chez nous là, parce que j'avais deux flots là, qui, mon Dieu, sautaient ses divans puis c'était l'enfer.
Ils étaient contents, là?
Puis moi, j'ai dit, ben oui.
Patelard.
Oui, hey, papa, tabarnouche, ça se bat. Puis moi, j'essayais de rester de marbre puis de dire, ouais, j'ai hâte, ça commence à jouer au hockey. Alors qu'à l'intérieur, j'étais là, pète sa gueule, tabarnak, pète sa gueule.
Parce que t'as des gars qui jouent au hockey, fait que tu vois aussi qu'ils voient la bonne façon de faire.
C'est ça. Pour en revenir aux gens qui ont été voir le match, ça coûtait une petite fortune, un genre de 500-600$.
Mais plus.
Plus 800? Que ça.
800. Ah oui,
800. Ben, Ketchuk se promenait. Je pense que c'est celui-là qui joue pour Ottawa. Là,
le plus jeune.
C'est le plus jeune.
Oui.
Il se promenait puis il distribuait les doubles échecs partout. Puis même, il est passé à côté de Crosby. Puis ça, c'est pendant qu'il y avait une pause. Là. Nous autres, on était à la maison. On voyait une pause. Ben, Ketchuk se promenait puis il donnait des doubles échecs sur les mains à Crosby, sur les avant-bras à Crosby. Je veux dire, ces gens-là étaient venus ici pour nous intimider. Puis je pense qu'ils ont réussi parce que j'ai jamais vu McDavid se faire brasser de main.
Ça a marché, puis tu prends l'exemple de McDavid, c'est le meilleur exemple. Connor McDavid nous a donné l'impression qu'on allait avoir une soirée mémorable, historique, avec un but incroyable, où un certain Charlie McAvoy a de l'air d'un épi de blé d'Inde au repos. Là. La deuxième fois, un petit peu plus tard dans la période où les deux se sont recroisés, c'est pas la même chose qui est arrivée. McAvoy a pris Connor McDavid puis il est quasiment allé l'asseoir dans les estrades avec une charge. La troisième fois, encore dans la même période, exactement la même chose. Puis après ça, on n'a plus revu Connor McDavid de la game. La défensive des Américains, on n'en parle pas assez. ils ont fait un travail incroyable. Ils ont coupé toutes ouais. les lignes de passe, toute la game. Je comprends que Bennington, je veux pas défendre Bennington. Je le prendrais même pas pour gauler au deck le mercredi soir, là. Mais c'est pas une histoire de goalers. On a une fixation, ces goalers ici. J'en reviens toujours pas. Les Américains ont été meilleurs. Ils ont eu plus de grit, ils ont eu plus d'intensité. Et il y a peut-être un petit quelque chose qui est de notre faute là-dedans. On a hué leur hymne national. Ça peut avoir des conséquences d'agir comme ça dans un événement sportif à haut niveau.
Ouais. Ouais. Ah, j'ai hâte de voir. Il y a deux matchs prévus aujourd'hui, cet après-midi. C'est le Canada qui affronte la Finlande.
On va suivre ça en direct avec vous autres, évidemment.
Puis ce soir, c'est les États-Unis qui vont affronter la Suède. Mais si y a une victoire du Canada contre la Finlande
en temps
période
régulier.
De temps régulier, effectivement, ben on s'assure d'une finale avec les États-Unis jeudi à 20h. Je pense que ça va être la game de hockey la plus regardée cette année.
Sans contredit, sans l'ombre d'un doute.
Là, on fait quoi? On réserve-tu d'un bar? On fait quoi?
Moi, je m'installe avec mes boys, on part la machine à popcorn, puis on fait à peu près le même setup que samedi soir en espérant que l'issue soit différente.
C'est vendredi, mais à quelle heure?
C'est jeudi.
Jeudi
à 20h.
Jeudi 20h, ouais.
Tu vas te coucher à cette heure-là,
ouais, toi, là.
C'est-tu jeudi à 20h?
Jeudi à 20h.
Oh boy, faut que je fasse
un téléphone. Les bars vont être pleins, là. Faut que tu fasses quoi?
C'est qu'il se passe.
Ouais, il texte tout de suite, là, en monde.
Pour une rare fois, j'ai de quoi jeudi à 20h, là, mais il ouais. faut que j'annule ça.
Fait que ça, c'était la soirée privée avec ta blonde uniquement.
Non.
C'est cancel ça, de vrai.
Non, c'est pas ça.
Mais bref, tout le monde a craqué pour la confrontation des quatre nations. Puis, salutations à Peter Forsberg, qui était ici à Québec, là, dans le cadre du tournoi international oui. de hockey à Pee-Wee. Faisait quoi, une vingtaine d'années qu'il n'était pas passé. Puis, il a rencontré des partisans. Je pense que la file était extrêmement longue, là. Mais il a rencontré des partisans un à un pour signature d'autographe et prise de photos. Ça fait du bien de le revoir. Là.
Toujours.
Ça nous rappelle le bon temps des Nordiques.
Ben oui. Puis écoute, ça fait partie du folklore du tournoi Pee-Wee de voir ces légendes-là revenir. Il y en a qui reviennent avec leurs enfants.
Timou, c'est l'année, t'es là?
Ben oui. Ouais. Tabarnouche que c'est le fun.
Non, vraiment, là? Toi, t'es-tu été...
Oui.
Rencontrer Timou sur l'année?
Oui.
Ça, c'est n'importe
J'ai une liste
quoi.
De rêves annuels, puis ça, c'était dedans.
OK.
OK. C'est fait.
T'as cancellé quoi jeudi, Denis?
Non, c'est parce que.
Oui, parce que là, ça avait l'air pressant.
La réalité, c'est que ton chum Steve Boutette, de la NSPW, ça fait plusieurs fois qu'il m'invite à son podcast. Puis ça fait plusieurs rendez-vous manqués qu'on a, là.
Ben, fait que là, t'es en train de le canceller encore?
Ben, je suis en train de le canceller. Dis, écoute, c'est Canada-États-Unis, là. On est en dialogue, là. Il va falloir trouver un terrain d'entente.
Il est
clairement.
Tellement fin qu'il va comprendre en plus. C'est bien ça l'histoire. Mais là, après, tu te pointes, hein. Sinon, on va te chercher et on va te porter.
Écoute, le nombre de fois que je l'ai choqué, là, je pense que je pourrais pas y refaire ça une autre fois. Bref, je réglerai ça tantôt. Mes excuses, messieurs, dames.
Voilà. Écoute, c'est sûr, en plus, tu sais, ils vont le connaître.
Denis, histoire atroce qui est survenue en fin de semaine à Québec. C'est un homme de 62 ans qui a été tiré. L'homme habitait dans une maison de chambre dans le secteur. Beauport. Heureusement, les individus, on parle de trois suspects, ont été arrêtés très rapidement, peut-être une quinzaine de minutes après le drame. Mais on parle encore là d'une erreur sur la personne. C'est pas la première fois que ça arrive, là, mais à un moment donné, c'est parce que là, il y en a un qui était de l'Ontario. Une des victimes qui était d'Ontario, qui était de passage dans le secteur Lévis, se fait tirer.
Ouais.
Lui, il habitait paisiblement dans une maison de chambre, dans sa propre chambre, répond à la porte. Merci, bonsoir. Puis t'avais la mère de famille aussi qui s'est fait tirer dans le secteur de Charlebourg, là, il y a de ça quelques semaines. Ça va arrêter quand? Hein? On est encore en sécurité?
C'est un triste reflet de ce qu'on voit depuis quelques années, puis de ce qu'on décrit aussi, des gangs de rue désorganisés qui font faire des jobs de cochon par des gens qui n'ont pas un millimètre de professionnalisme. Parce que oui, le professionnalisme, ça existe aussi dans le monde criminel. N'importe qui a déjà vu un film où on engage quelqu'un pour tuer quelqu'un, tu sais, t'as des gens qui font ça avec une certaine révérence, une certaine expertise.
Ouais. Gérald Galland.
Là, tu prends n'importe quel flow défoncé au crack, tu lui donnes un machine gun, puis tu lui dis, ben, c'est le gars chauve avec une moustache, puis il tire le premier qui croise parce qu'il shake de même. Ça donne des résultats catastrophiques. Puis pour répondre à ta question de fond, ben, on est de plus en plus nombreux à ne pas se sentir en sécurité sur le territoire de Québec. Parce qu'on donne des armes à des gens qui sont pas capables de faire leur job comme il faut. Et ça donne des résultats désastreux. Puis moi, ça m'étonne, parce que là, on parle d'erreur sur la personne, puis c'est pas la première fois. Ça m'étonne de voir la mollesse totale au niveau du gouvernement puis au niveau des services de police. Ça fait plusieurs fois que ça arrive, les amis. Vous attendez quoi, là?
Ouais. Parce que je sais pas si c'est trop doux. Tu sais, quand on dit victime, erreur sur la personne ou une victime innocente, je sais pas si c'est trop doux. Faudrait tout le temps dire ça aurait pu être votre père, ça aurait pu être votre frère, votre ami, votre collègue de travail qui se fasse tuer sans aucune raison.
Parce que sans ça, on va se ramasser comme la dernière fois. Va falloir se rendre à un enfant qui meurt là, pour allumer là, puis commencer à prendre ça au sérieux.
Mais quand c'est pas dans cette thématique-là, les gars, on dirait que ça a plus d'impact. On est rendu à être un peu désensibilisé à ce qui se passe dans tout ce qui est crime organisé puis violence urbaine.
Ouais.
Même si les gens qui ont été touchés n'étaient pas à être touchés, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se ferme. Tandis que, mettons, on parle de ça, là, un individu là, délibérément qui saute une fuse puis qui s'en va tirer quelqu'un, victime collatérale, demain matin dans un quartier de Québec, on va en parler pendant 3 semaines. Il y a vraiment quelque chose qui est lié au crime organisé où il y a une désensibilisation ou un déni collectif.
Flo de 14 ans à Frampton.
C'est fou, ben oui.
Tu sais, son corps a été retrouvé décapité et brûlé, là. Puis là, mais ça, c'est quelqu'un de Montréal. Il était chargé d'une mission de venir tirer sur un bunker des Hells Angels. Ouais, mais qui l'a tué? Comment un enfant de 14 ans peut se ramasser avec une arme de poing puis une mitraillette dans les mains? Puis il va falloir commencer à se poser des questions puis mettre en place des escouades qui vont faire en sorte que ces gens-là vont avoir assez peur que jamais ils embarqueront là-dedans. Il y a un expert policier qui me racontait qu'aujourd'hui à Montréal, c'est un collaborateur, mais je perds son nom. Aujourd'hui, à Montréal, pour faire tuer quelqu'un, c'est quelques centaines de dollars.
Pas cher.
Fait que c'est accessible à tout le monde.
Ben, c'est ça.
Pascal, t'as rien entendu?
Oui,
Arrête de me regarder de même.
Mais, tu sais...
Ah ouais, c'est pas cher, de même.
Y'a-tu quelqu'un?
T'es trouvé une liste?
Non, on peut pas niaiser.
J'ai vu des étincelles dans tes yeux. Comme,
de peur.
Puis, tu sais, les policiers, ils ont pas chômé. Je veux dire, il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'arrestations. Il y a eu des saisies, puis tu t'attends à ce que ça ait un effet justement sur les règlements de compte, la violence, les meurtres, mais ça continue en parallèle comme si les groupes criminalisés n'avaient pas été touchés par tout le travail qui a été fait dans la dernière année. Ça aussi, c'est inquiétant, là.
Mais c'est une victime de 62 ans. Lui, il se lève, répond à la porte, se fait tirer par trois gars de Montréal.
Il n'y a rien à voir là-dedans.
Rien à voir là-dedans. Puis on dit, ouais, victime collatérale, puis on ça passe rapidement à d'autres choses.
Extrêmement violent. Puis moi, j'ai habité dans ce quartier, bien, proche du boulevard des Chutes pendant 5 ans.
Dis ton père, tu réagis comment?
Ah, moi, je vais être folle. Ah, moi, faut pas que. L'injustice, tu le sais, c'est le point qui me.
Pour ça, je
c'est
dis...
dur que j'aie des émotions négatives, puis que j'en veuille à quelqu'un, puis même si tu me fais mal foncièrement, mais l'injustice.
Pour ça, je dis, erreur sur la personne, je trouve que c'est doux.
Ben oui, puis tu sais, c'est vendredi après-midi qu'on a commencé à jaser de ces choses-là, puis on avait quelqu'un qui est en studio avec nous autres qui reste dans ce coin-là avec ses enfants, secteur boulevard des Chutes.
Mais j'ai habité là 5 ans, c'est calme, là, d'habitude, c'est un beau secteur même, honnêtement.
C'est plus une histoire d'une rue mal famée dans un secteur de Québec, là. Ça s'étend à grandeur.
C'est développé, il y a plein de familles, il y a des nouveaux condos depuis des années. C'est vraiment pas le secteur que vous avez en tête, là, en écoutant une nouvelle de même.
Puis sans vouloir romancer la mafia ou la belle époque des Hells Angels, il y avait quand même un certain code d'honneur qui t'empêchait de saloper des jobs comme ceux-là. Puis si jamais il y avait un job qui se faisait pas comme faux, puis moi, ben, tu sais, j'ai de l'empathie jusqu'à une certaine limite. Puis ma limite à moi, c'est tant que vous vous tirez entre vous autres, j'ai aucun espèce de problème avec ça. Mais quand c'est rendu que tu n'as plus assez d'honneur, de respect ou de contrôle pour que les choses se fassent correctement, avec une certaine volonté ou une certaine nécessité de dire « on s'en va pas tuer du civil, on s'en va pas faire justement ce qu'on appelle des victimes collatérales pour pas se ramasser beurré à grandeur avec les policiers aux fesses », mais là, il y a eu une erreur sur la personne en fin de semaine. Avez-vous entendu des ministres, vous autres, aujourd'hui?
Une autre erreur sur la personne. Puis, rappelez-vous, dans le temps, la guerre des Hells là, contre les Hell Machines.
Les Rock Machines.
Ça avait été le petit gars qui avait fait assassiner par erreur, qui avait fait
Daniel, le petit, il avait 14 ans.
Mm-hmm. Ouais. Qui avait fait en sorte que les policiers, avaient dit « là, c'est fini ». Là, c'est fini. Là, vous avez fait votre loi, l'ordre, tout ce que vous voulez. Vous êtes fait entendre, vous haïssez, c'est une affaire.
Dérocher. Mais, Daniel Dérocher.
Ça se
oui,
peut.
C'est ça, c'est ça, Yann. Oui. Puis, il y a eu comme une autre mission là, qui est apparue là-dedans, puis c'était « il n'y aura pas de grabuge dans les rues citoyennes, puis il n'y aura pas d'autres... » Mais il n'y a pas ce courant-là en ce moment avec les victimes collatérales. Puis ça, je me dis, crime, il doit avoir une explication. 88-971-101, si vous travaillez dans le domaine policier ou autre, vous avez de l'information, parce que C'est dur à saisir.
Ouais. C'était en 95, le petit Daniel Desrochers. Il est décédé à l'âge de 11 ans. Ça avait fait réagir ça énormément les politiciens à l'époque. Hey, je veux vous parler d'une fraude. Est-ce que c'est une fraude qui est beaucoup répandue? Je ne le sais pas encore. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui sauront me le dire par texto au 88-971-1021. 88-971-1021. Mais l'histoire s'est passée à Montmagny, il y a de ça quelques jours, précisément le mercredi 29 janvier, où un gars qui s'appelle Jean-François décide de vendre son véhicule sur Marketplace. Et c'est un genre de Volkswagen, tu sais, un véhicule de quelques milliers de dollars. Et il y a quelqu'un qui le contacte en disant, écoutez, je vais aller vous voir. Tu sais, quand la personne veut te rencontrer tout de suite, c'est assez rassurant. Je vais aller vous voir, je vais essayer le véhicule, puis je vous offrirai peut-être ce que vous me demandez. Fait que Jean-François, il reçoit 5 individus chez lui pour un véhicule. Puis là, ben là-dedans, il y avait 2 femmes, de ce que je comprends. Il y avait 3 gars. Et il commence à faire le tour du véhicule puis il parle avec le propriétaire du véhicule.
Oui.
Et pendant ce temps-là, il y en a un qui dit, pouvez-vous m'ouvrir le hood? Puis après ça, il y en a un qui est en arrière pour vérifier là, le dessous du char et tout ça. Fait que Jean-François se méfie de rien. Puis c'est son véhicule, Jean-François. Donc, il connaissait son fameux véhicule Volkswagen. Et il décide, avec un des gars, d'aller faire une run de voiture pour montrer que son véhicule qu'il veut vendre, c'est un véhicule qui fonctionne bien. Après quelques secondes, il s'aperçoit que ça sent bizarre dans le char. Après quelques secondes, il entend une courroie faire un bruit de crissement. Là. Et il se dit, voyons, mon char ne faisait pas ça hier. Je ne sais pas pourquoi il fait ça là. Tu sais. Et bon, il continue de faire la run avec les individus. Et le gars dit, ouais, mais là, tu demandais tant pour ton char. Tu comprends que là, avec les problèmes que ton
char,
là,
ouais.
Je peux pas te donner ce que tu veux. Fait qu'il sort du véhicule, ouvre le hood. Puis là, il dit, tabarouette, le moteur est rendu plein d'huile. Qu'est-ce qui se passe? Regarde derrière où la sortie de l'exhaust. Il y a plein d'huile aussi. Et l'autre, un des individus qui était là et qui voulait acheter le Volkswagen, dit « Mais regarde, je t'offre tel prix pour ton char, puis on part avec aujourd'hui. » Et Jean-François dit « Ouais, c'est parce que je voulais le vendre tel prix. » Puis l'autre, il dit « Non, mais regarde, tu veux pas, je donne un exemple comme ça, là, c'est pas moi qui tenais le fanal là, mais il dit tu voulais 15 000 pour, moi je t'offre 13 000, mais je suis capable de faire un bout de chemin, je t'offre 14. » Et là, Jean-François dit « Non, regarde, tu sais quoi, j'aime mieux vendre un véhicule qui est en état plutôt que de vendre un véhicule tout croche puis après ça avoir des problèmes ou que tu te tues avec par la suite. » Donc, il décide de garder le véhicule, s'en va le porter le lendemain chez le mécanicien.
Oui.
Et le mécanicien dit, « Écoute, il n'y a pas de problème ton véhicule. Je ne sais même pas qu'est-ce que tu fais ici. » Fait que là, Jean-François dit, « Ben non, mais mon char hier, il était plein d'huile. » Non, il n'y a pas de problème. Là. Je l'ai nettoyé, tout est beau, il fonctionne. En consultant ses caméras, il s'est aperçu... Est-ce que tu as vu la vidéo que j'ai envoyée?
Oui, j'ai vu.
Il s'est aperçu que pendant que les gars étaient tout autour de son véhicule puis ils jasaient, il y en a un qui est passé avec une petite pompe.
Il a beurré d'huile à la grandeur.
Il a beurré d'huile à la grandeur le moteur. Puis il y en a un autre en arrière qui est arrivé où le pipe du véhicule, puis il a enfoncé de l'huile là-dedans pour être sûr et certain que le véhicule ait de l'air fini.
Ouais.
Et lui, il voulait juste avertir que ce type de fraude-là existe.
Une chance qu'il y avait des caméras. Une chance qu'il y avait des caméras. Puis j'espère qu'on va être capable de pénaliser, mettons, judiciairement la chose.
Ben oui.
Là, je veux dire, il a mis les photos des individus sur Facebook. N'importe quel policier va dire, faites pas ça, appelez à la centrale. Oh oui, c'est ça. On va vous donner un numéro de dossier. Merci, bonsoir. On se reverra dans 5 ans.
Hey, pour des histoires de même, là, mais, ça passe pas en premier.
Mais je trouve ça formidable, moi, que des gens, des citoyens, puis lui, c'est un directeur d'usine. Là, c'est quand même quelqu'un qui a une belle job. Là. Je trouve ça formidable que les gens mettre ça sur Facebook. Voici, ça, c'est des crosseurs. J'ai la preuve que c'était des crosseurs. Mm-hmm. On le voit mettre de l'huile dans le moteur. Je diffuse l'information. Je trouve ça formidable.
J'ai pas de problème avec ça du tout non plus. D'autant plus que l'histoire est très bien racontée de façon chronologique. Puis tout ça, je veux dire, c'est un post qui est très bien fait. Puis les photos et les vidéos rajoutent de la crédibilité. On peut encore se parler puis s'avertir entre nous autres.
Ouais.
Puis si jamais quelqu'un les connaît, ben ces moineaux-là, ben, ça va aider le travail des policiers, là, en bout de ligne. Là.
Mais c'est du crime organisé. Là. C'est une stratégie qui avait été mise en place pour faire descendre la valeur du véhicule. Tu sais, pauvre gars, tu te sens mal. Tu as l'impression que le gars, il va te traiter de crosseur. Là. Voyons, tu me charges, mettons, 15 000 sur ce véhicule-là, puis ça sent l'huile, la courroie est scratch.
Si jamais ça vous arrive, vendez pas le char. Gardez-le, faites-le vérifier le lendemain. Ça a l'air qu'il y a du monde qui ont... Hey, il me semble que c'est de l'ouvrage.
Le monde est brillant.
C'est de l'ouvrage. C'est être payé pour crosser le monde. Eux, ils se font de l'argent pour recrosser puis recrosser.
Ouais. Mais des cerveaux comme ça, T'sais, ça peut être utilisé à bon escient puis à mauvais escient. Eux autres, ils ont comme choisi la mauvaise trail. Imagine-toi s'ils avaient choisi l'autre trail. C'est-à-dire, on va faire quelque chose de positif pour la société, puis on va faire aller nos cerveaux, puis on va faire de l'argent avec ça.
On va nous rendre service un peu.
C'est complètement fou. Mais je vous ai mis l'histoire sur ma page Facebook, ouais. Les amis, pour ceux qui veulent aller consulter ça puis de voir justement ces deux gars-là qui sont en train de saboter le char. Grosse nouvelle aujourd'hui, je ne sais pas si tu vas régulièrement à la SAC.
À la SAC. Oui. Plus à la SAC qu'à la SAC, oui.
À la SAC, on veut pas y aller.
Non, le moins possible.
Puis d'ailleurs, quand tu vas à la SAC, il y a tout le temps un agent de sécurité qui est à ses débuts, qui dit, en traduction, « Qu'est-ce que tu fais ici? » Y a-tu été dernièrement?
Non.
Moi, j'y étais, j'avais pas de rendez-vous, j'étais pressé, j'y étais juste à côté. Mm. Puis l'agent de sécurité, il doit peut-être dans sa première job là, de sécurité, puis lui, on lui a dit, « Faut que tu sois imposant. » Il arrive, t'as l'impression qu'il va te sauter dessus ou ben, il va te fouiller, là, oh. Il écarte tes jambes.
Alors que t'as pas senti ça pour vrai. Hey, t'es senti menacé. À la
deux fois, ici, okay. Puis dans le secteur de... Boulevard Hamel,
ben,
puis...
voyons, Boulevard on t'a persécuté.
Boulevard Hamel, puis Henri IV, pendant la pandémie, il okay. Fallait que j'aille régler des trucs pour ma voiture. Puis l'agent de sécurité, il était sur le point de passer tous les gens qui rentraient dans la bâtisse par la fenêtre.
Ah, ben, voyons. Alors, voyons
y alors qu'il n'y a personne qui est ici parce qu'ils ont le goût, là.
Non! T'sais, tu vas là.
Même chien, elle là.
Mais je sais pas si c'est ce qu'on leur demande, tu sais, d'être très imposant au départ. Mais bref, il y en a des doux, mais ceux qui sont moins doux, on les remarque assez facilement. Mais pourquoi je vous parle de la SAQ? C'est parce que, ben en fait, je vous annonce qu'il y aura des bonus pour ce qui est des dirigeants de la SAQ.
Ouais, pas nous autres.
Parce qu'ils vont atteindre leur objectif.
Oui.
Leur objectif de vente. Mm. Ça se détermine pas par bouteille, ça se détermine par l'argent qu'il envoie au gouvernement. Fait que tu comprends que si les bouteilles augmentent, ben nécessairement, il y a un montant qui va être envoyé au gouvernement supplémentaire.
Ouais, mais là, la compétition, ah, ben c'est un monopole. Fait que tu peux monter le prix de la bouteille tant que tu veux. Ouais, il y a
mais
ça.
Mais je vais partir mon propre vin. Moi, je pense, les gars, si vous voulez m'en acheter, m'encourager.
Donc, c'est une hausse d'à peu près 3 %. Par exemple, sur une bouteille de 15 % en provenance de la France, ben la hausse est de 50 cents. Fait qu'on va chercher des petits 50 cents.
Encore et encore.
Pour une bouteille de spiritueux à 45 $, ça, on s'adresse plus à Pascal, là. Ça, c'est l'augmentation qui s'élève à 2 $ la bouteille supplémentaire. Les prix des vins à petit prix de moins de 12 $.
Ça, c'est ta catégorie, Yannick?
Oui, ouais, mais il n'y a de plus goût. De vin à 12 $.
Il n'en reste pas des tonnes, là. Crime.
Des fois, ça coûte
quoi?
Moins cher, ce bouquet, un voyage en Europe, d'aller boire du vin là-bas. Ben là, honnêtement, là, si tu regardes tes dépenses à l'année là, sur ton vin, là, d'après moi, tu vas être plus avantagé.
Par texto, il reste-tu des vins à la SAQ à 12 $? 418-971-1021, 418-971-1021.
Écoute, il doit en rester un par pays, deux gros max. Pas plus que ça, là.
Puis tu te risques-tu?
Mais non, mais il faut qu'il soit bon. Il y en a des très bons, là.
Ouais, mais connaissant la marge bénéficiaire de la SAQ sur chaque bouteille, là, tu te risques-tu quand elle coûte juste 12 $?
Quoi? Tu veux que je réponde? Non.
Ben bref.
Ah, moi, je l'ai déjà goûté.
Je veux juste rassurer les gens qui font partie de la moyenne, comme moi, ou peut-être plus basse. 12 $, on touche pas au petit prix.
Ouais. Pour les 4 bouteilles qui restent dans votre SAQ en bas de 12 $, là, ils vont rester là, eux autres.
Je serais curieux d'y goûter.
Hey, ben parenthèse, il y a un carambolage majeur, 20 direction S sur Timon-Magny. Soyez prudents.
Donc, à partir du 1er mars, là, ça va coûter plus cher.
Ça doit être du monde qui se garoche à SAQ.
Allez, ça, okay. Il vous reste février.
OK. Il me restait une petite dernière chose à te jaser avant de te laisser partir, cher ami. T'sais, on en parlait tantôt avec Pascal, les CPE qui sont en grève au Québec. Moi, j'ai un grand respect pour les gens qui s'occupent de nos enfants. Bon, il faut faire des cours maintenant pour pouvoir être éducatrice en garderie et tout ça. J'ai un grand respect pour eux. Mais je vais essayer d'être conséquent avec ce que je dis tout le temps, là. Quand vous voulez négocier vos conditions salariales, vos conditions de travail, vous ne devez jamais le faire sur le dos de la population. 400 CPE qui sont en grève au Québec, avec la tempête en plus qui s'est ajoutée à ça. Denis, ça me fait tout le temps sûr parce qu'il y a des gens qui perdent leur journée au complet de travail. Pendant qu'eux autres, ils vont faire la grève. Là, on me dit que la grève à l'extérieur a été annulée, là, mais ils ne sont pas là quand même. C'est aux ça. CPE.
Puis, je comprends que dans leur job, les enfants sont évidemment présents, mais moi, d'embarquer des enfants dans des négociations de salaire, parce que la conséquence, c'est ça, là, leur job, c'est s'occuper des enfants. C'est comme des infirmières qui manifestent en avant d'un hôpital. J'ai toujours eu un immense malaise avec ça. Les gens qui vont à l'hôpital, c'est pas des gens qui ont une bonne journée là, de façon générale. Là. Moi, quand je me demandais si j'avais un enfant que j'allais mourir, qui allait mourir aujourd'hui, puis que je passais à travers une trolley de pancartes et de klaxons pour me rendre là, je peux pas dire que j'avais beaucoup de sympathie pour les demandes des infirmières, alors que de façon globale, j'en ai. Mais tu sais, des fois, c'est juste une question de contexte, une question de perspective. Pourquoi on n'a pas trouvé de moyens de pression qui font en sorte que les parents et les enfants ne sont pas touchés?
Mais c'est plus
et
ça,
peuvent prendre part, ouais, eux aussi, peut-être, aux revendications et aux manifestations.
Parce que là, c'est le gouvernement, t'sais, qui gagne, là, parce qu'on commence, oui, à ce moment-là, on s'allie contre, en fait, le groupe qui est en négociation avec le gouvernement. Et ça, j'ai un profond malaise parce qu'on en parle souvent dans le petit top, les gars aussi, puis vous le dites, puis vous le vivez avec vos propres enfants, mais tout se joue avant 6 ans. Dans l'enfance, là, tout se joue avant 6 ans sur la manière dont le soin va être apporté, le développement va être travaillé. Puis il y a des parents qui, bon, peut-être pour certains, sont pauvres intellectuellement, sont pauvres parentalement parlant, d'autres pas du tout. Mais le fait de fréquenter des CPE avec des gens qui ont étudié la pédagogie, qui ont étudié le cheminement de l'enfant, le développement, va faire en sorte que ça va être une meilleure société pour la suite parce qu'au moins, il y aura ce filet de sécurité-là. S'ils ne sont pas assez payés, s'ils ne sont pas assez valorisés, il faut le prendre au sérieux parce que les impacts après... et on parle de dommages collatéraux, sont extrêmement forts dans nos écoles, mmh, puis pour la suite des choses.
Moi, je regarde la génération des jeunes de 20 ans, 30 ans qui ont eu accès au CPE. Non, c'est pas le temps d'en parler, hein. Mais bref, la grève des éducatrices...
En plus, il est allé jusqu'à 30. Il est allé jusqu'à mon âge pour être sûr de me mettre dans la catégorie.
À date, l'expérience n'est pas payante.
Ouais, la grève des éducatrices est essentielle. Ça, c'est un texto que j'ai reçu tantôt. Le ministère ne comprend pas l'importance de ce métier. Tout se passe avant 6 ans. Elles sont au cœur du développement de l'enfant qui seront les adultes de demain.
C'est vrai, ça.
Ça fait suer une grève, peut-être, mais au pauvre salaire qu'elles ont, il faut que leur point soit entendu. Moi, on est tous d'accord avec ça.
Oui.
Le problème, c'est de prendre en otage la population.
Voilà. Qu'est-ce qu'on fait?
Moi, je suis d'accord avec tout ça. Tant que tu viens pas me priver de service.
Mais
tu viens me priver de service, tu viens de me perdre à ta cause. C'est instantané.
C'est ça. Puis je pense qu'on est, la plupart, on a ce thinking-là. On est de votre bord parce qu'on sait que les salaires sont pas assez élevés, mm-hmm, pour ce qui est des éducatrices en garderie. Mais si tu m'empêches de gagner ma vie pour toi gagner la tienne, là, ça marche plus.
Mais exact. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que, mettons, ce qui va donner un petit choc au gouvernement, c'est si les citoyens se logent derrière eux puis commencent à chialer parce que là, les CPE sont fermés.
Ouais.
Ils savent qu'ils vont avoir un impact là. Puis le gouvernement veut pas mal paraître encore avec notre grève comme la grève scolaire. Fait que peut-être qu'ils vont faire en sorte de ramener les négociations dans le bon sens, sauf que je suis aussi d'accord avec vous en me disant, OK, mais il faudrait que ce soit une autre façon de faire, mais on ne la trouve pas.
Ben, ouais, c'est pas ma job de, exact, leur trouver des façons intelligentes de manifester. Mais
c'est la job collective rendue là, moi, je trouve.
Je vais juste proposer une piste. Tout ce qui est relié à l'administratif qui peut faire en sorte que la machine ne fonctionne pas, je sais que les CPE sont capables de ralentir et d'entrecuter la vie de fonctionnaires pour qui j'ai pas mal moins de sympathie que des parents qui sont pris en otage avec leurs enfants parce que leur journée tourne autour d'un service comme celui-là. Il y a d'autres moyens. C'est juste que les syndicats de tradition sont pas des gens qui veulent réfléchir.
On les
beaucoup.
Aime moins. On les aime
on
moins.
On veut faire chier le monde parce que quand le monde... On veut se servir des gens. C'est une tactique syndicale qui, chez les grandes organisations syndicales, est adoré. Quand les gens sont en sacrement, c'est là que le gouvernement bouge. C'est le pari qu'ils ont toujours décidé de prendre parce qu'ils n'ont pas beaucoup de considération pour leur clientèle.
Sauf que comment est-ce qu'on rallie les gens qui, dans leur habitude, dans leur quotidien, vont porter déjà les enfants, sont déjà stressés, vont travailler financièrement, c'est tough, c'est ça. Puis de prendre en charge la demande de gens qui s'occupent de leurs propres enfants quand eux, ils s'en occupent pas dans la journée. Puis c'est normal, tout le monde travaille, c'est ça la société actuellement. Comment est-ce qu'on fait, nous, pour être aussi intéressés qu'eux à leur cause, sachant que ça va toucher nos enfants puis les enfants de demain? C'est là où, moi, le train débarque puis que j'ai le goût de le rembarquer. Parce qu'on se divise, sauf que on n'est pas nécessairement... Puis moi, la première, là, si j'avais des enfants là, avec ma job, puis j'ai l'enfant Yannick Marceau ici à gérer, puis tout ça, probablement que je ne serais pas la première à dire, bon, comment est-ce qu'on pourrait les aider dans leurs négociations sans que ça impacte notre vie? Mais il y a ça à faire pareil. Ouais.
Je vais raconter le seul exemple que je connais encore une fois des 20 dernières années. Ces journalistes en grève qui ont décidé de lancer leur propre journal.
Le Soleil Matin.
Et qui allaient le
Réveil Matin. Le Soleil Matin.
Le Média Matin Québec.
Le Média Matin Québec.
OK, ils ont trouvé un nom horrible, là, mais rétroactif. Effectivement, ces journalistes-là ont décidé de continuer de faire leur job pour la population, puis ils ont même fait un extra mile. Ils allaient eux-mêmes distribuer leur journal à Place Diouville et ailleurs. Moi, j'ai trouvé que c'était une technique... j'étais convaincu à l'époque que ça allait faire boule de neige, qu'on venait de trouver le nouveau syndicalisme. Le syndicalisme moderne, où au lieu de priver les gens de ton service, ben, tu continues de le donner pour faire en sorte que les gens soient de ton côté.
Puis les gens, ils l'encourageaient, ils allaient vers ça, ils n'allaient pas vers l'autre média, ils n'allaient pas.
Nous autres, c'était rendu la source d'information numéro un qu'on utilisait dans notre émission de radio, puis on était très fiers de le faire, puis on est resté du côté des journalistes, alors que s'ils avaient décidé de juste faire une une bonne vieille grève comme on fait d'habitude avec des pancartes puis en travaillant pas, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette perspective.
Juste, problème,
juste terminer avec les auditeurs qui nous écrivent. Il ne faut pas oublier que le bon salaire, c'est vraiment relatif pour chaque situation ou personne. D'ailleurs, je suis d'accord. Parce que le salaire à Pascal, c'est un très, très bon salaire. Et le mien, c'est un bon salaire. Je les trouve bien payés, moi, eux autres, les éducatrices en CPE. Moi, je fais du béton puis du terrain à l'année avec la job. Et je suis pas mal moins payé qu'eux. Et je fais plus de 48 et même 48 heures. Plus de 42 à 48 heures par semaine.
Mais il a dit c'est relatif. Moi, changer des couches, faire manger un enfant, enlève ton donut dans ton nez, enlève ton donut, mange pas ta crotte de nez 50 fois par jour auprès du même Kevin. Je trouve ça tough. Là.
Tu parles de la job de parent.
Je vais aller dans le béton. Là.
Le parent qui gagne moins cher que quelqu'un dans un CPE et qui est privé de son service aujourd'hui a tous les droits d'être en tabarnak.
Il peut vivre ces émotions-là. Je suis partagée, je suis divisée. Moi, je pense que le pain in the ass là, là-dedans, c'est le syndicat. Il n'y a rien qui a été renouvelé. C'est des vieilles mentalités qui ont servi énormément pendant de plusieurs années, mais avec lesquelles on est pogné. Puis les revendications ne sont pas pour les travailleurs forts normalement, mais plus pour continuer d'avoir une job de syndicat.
Quiconque s'est fait obligé à devenir éducatrice en CPE peut m'écrire au 418-971-101. Ces gens-là, au départ, connaissaient les conditions salariales. Moi, je répète que ces gens-là ont le droit à de bons salaires. Mais comme Denis mentionne, certains auditeurs, c'est que là, à un moment donné, il faut qu'eux se prennent en main sans prendre la population en otage pour autant. On leur souhaite la meilleure des chances. 12h36, Denis, on t'écoute à 14h.
Yes, salut! Boulevard 100.